Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-François Cadet, Guillaume Munier.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale et plus précisément aujourd'hui de l'économie européenne confrontée au coronavirus. L'Europe, prédisait Jean Monnet, se fera dans les crises et elle sera la somme des solutions apportées à ces crises. Alors Jean Monnet avait-il raison? L'Union européenne a-t-elle pris la mesure de cette crise? La solidarité européenne est-elle au rendez-vous ou montre-t-elle au contraire ses limites? Comment aider les entreprises à survivre et à relancer leur activité au sein de la zone euro? Comment faire face à l'explosion de la dette publique tout en se donnant les moyens de remettre du charbon dans la machine? Le recours au mécanisme européen de stabilité est-il nécessaire et suffisant ou faut-il aller encore plus loin en développant les Corona Bonds et en mettant en place un vrai plan de relance européen? Quel impact sur les prix, les impôts, les dividendes des actionnaires et sur la politique industrielle? Avec nous pour en débattre, trois invités par téléphone, évidemment, confinement oblige. Bonjour Aurore Laluc.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes eurodéputée, membre du groupe de l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates, élue en France avec le mouvement Place Publique. Vous êtes aussi économiste, hein, vous avez cofondé l'Institut Veblen. Une autre économiste est avec nous, Agnès Benassi-Quéré. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur à l'école d'économie de Paris, vous enseignez à l'université Paris 1 à Panthéon-Sorbonne. Merci également d'être en ligne. Et puis notre 13e invité, c'est Alban Magyar. Bonjour.
Oui, bonjour Monsieur Cadet, bonjour Mesdames.
Merci aussi à vous d'être avec nous. Vous êtes le président de SME United, l'association européenne de l'artisanat des petites et moyennes entreprises. Vous avez aussi été en France le vice-président de la CPME en charge des affaires européennes. Au cours de cette émission, nous entendrons également un focus d'Abla Junaidi sur les inquiétudes du monde du transport aérien européen, un encadré de Pauline Glaise sur le plan de la BEI, la Banque Européenne d'Investissement, et au micro de Franck Alexandre, un avocat français qui intente une action collective pour geler les dividendes des grandes entreprises et les transformer en une contribution de solidarité exceptionnelle. Alors ça y est, après un échec retentissant mardi et des échanges peu amènes, les ministres européens des finances ont accouché ce jeudi soir d'un accord sur une réponse économique commune dans cette crise du coronavirus, un plan de sauvetage qui s'élèverait à 500 milliards d'euros. Mais qu'est-ce que ce fut long, qu'est-ce que ce fut difficile, Aurore Laluc, malgré l'urgence. Est-ce que vous êtes soulagée aujourd'hui?
Je suis soulagée pour le message politique que cela envoie. Tout simplement. C'est-à-dire que enfin, on a un accord. Après, c'est un accord à minima. C'est-à-dire qu'on n'a toujours pas les Corona Bonds ou les Euro Bonds, donc pas de solidarité budgétaire. Et ensuite, c'est pas vraiment un plan de relance, hein. C'est un plan de soutien sur le chômage partiel qui avait été déjà validé en fait par la Commission européenne de 100 milliards. C'est un fonds garanti pour les entreprises de 200 milliards et une utilisation partielle, on en parlera tout à l'heure, je pense, du mécanisme européen de stabilité. Mon inquiétude à ce stade, c'est que tout cela passe beaucoup par de l'emprunt, du prêt, et qu'on n'est pas du tout dans un changement de logiciel. J'ai des craintes, à vrai dire, pour une prochaine dette des crises souveraines, notamment sur l'Italie, et j'ai une crainte notamment pour les artisans, les petites entreprises, les PME, les ménages, parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on a besoin de financer l'économie pour que, d'un point de vue social, ce soit pas un désastre, pour que le tissu productif ne s'effondre pas. C'est donc de la compensation totale pour maintenir, en fait, en vie une économie qui est à l'arrêt face à un virus, face à une pandémie. Et ça se fait pas avec du prêt. Ou alors ça se fait avec des annulations de prêts.
Alors et justement,
on va étouffer les entreprises, on va étouffer les ménages, et c'est là mon inquiétude aujourd'hui.
Alors justement, la voix des entreprises, elle est portée dans cette émission par vous, Alban Magyar, notamment les petites et moyennes entreprises. Qu'est-ce que vous attendez, vous, en tant que chef d'entreprise de l'Europe? Dans ce genre de circonstances, est-ce que le bon interlocuteur, c'est l'Union européenne, ou est-ce que ce sont les États nationaux?
L'Union européenne déjà définit des règles et a défini la possibilité de modifier les règles qui existent jusqu'à présent. Donc c'est assez intéressant. L'autre chose qui nous paraît déterminante, c'est que des décisions sont prises, et comme l'a dit Aurore Laluc, c'est peut-être à minima, mais c'est déjà quelque chose. L'ennui, c'est qu'on ne sait pas du tout comment les fonds qui sont définis, déterminés, parviennent jusqu'aux PME, jusqu'aux artisans. Donc, comme cela a été dit, L'ennui, c'est qu'on est dans de l'endettement et c'est pas de quelle façon va être opérée cette survie.
Donc beaucoup de flou effectivement encore aujourd'hui alors que nous enregistrons cette émission, à savoir vendredi matin ici en heure française. Alors comme souvent après ce genre d'accouchement difficile au sein de l'Europe, tous ceux qui y ont contribué se félicitent. Hein. Le français Bruno Le Maire parle d'un excellent accord, l'allemand Olaf Scholz d'un grand jour pour la solidarité européenne, la présidente de la Banque Centrale Européenne Christine Lagarde salue un accord novateur. Bon, il est si bon que ça, cet accord, pour vous, Agnès Benassi-Kerré?
Bon, alors moi, je suis relativement positive, même si on n'est pas au bout de nos peines. Donc, certes, il s'agit de prêts aux États, donc aussi bien le mécanisme européen de stabilité que le guichet qui est ouvert par la Commission européenne pour financer le chômage partiel. C'est des montants qui ne sont pas négligeables, d'une part. Et d'autre part, dans la mesure où ce seraient des prêts à long terme, donc avec un remboursement étalé sur peut-être 30 ans, ça c'est pas encore, enfin je connais pas encore le détail, hein. Dans la mesure où ce serait donc de long terme, ça laisse aux États, enfin ça va réduire le risque de crise de dette souveraine à court et moyen terme, d'autant que la Banque Centrale Européenne soutient explicitement les dispositifs. Il n'y aurait pas la Banque Centrale Européenne derrière, je penserais que c'est négligeable, parce que de toute façon, effectivement, c'est de l'endettement des États de manière indépendante, mais il y a la BCE derrière. Par ailleurs, bon, on ne le dit pas parce que on n'a pas envie de regarder les choses en face, mais si l'Italie s'est trouvée dans une difficulté à servir sa dette, eh bien, le mécanisme européen de stabilité est prêt. Et ça veut dire que derrière, il y a un instrument supplémentaire de la Banque Centrale Européenne, qui sont les OMT. Bon, c'est un peu technique, hein, mais la différence par rapport à ce qu'a annoncé la BCE jusqu'à présent, c'est que la BCE a annoncé des emprunts, mais tous azimuts, enfin de racheter des emprunts tous azimuts de tous les États européens, alors que là, l'OMT, c'est un instrument spécifique pour un pays en crise.
Alors, ce mécanisme européen de stabilité, hein, il existe, je le rappelle, depuis la crise de la dette européenne en 2012. Alors, pour faire simple, c'est une sorte de fonds de secours, hein, qui se traduit, donc, vous l'avez dit, par des prêts accordés aux États. Il y en aurait pour environ 240 milliards d'euros dans cette crise. Alors, ce qui posait problème, Aurore Laluc, c'était les conditions, hein, à poser aux différents États pour qu'ils puissent y avoir recours. L'Italie ne voulait pas de conditions trop strictes. Elle ne voulait pas, en quelque sorte, être mise sous tutelle, comme en son temps la Grèce l'avait été. Même chose aussi pour l'Espagne. Finalement, chaque pays pourra donc emprunter jusqu'à 2% de son produit intérieur brut sans condition, mais uniquement, et c'est important de le préciser, pour les dépenses de santé et de prévention. Est-ce que c'est un bon compromis qui a été trouvé là, Orlaluc?
En fait, c'est un compromis très flou, parce qu'il y avait un combat entre les Pays-Bas, pour le dire clairement, et un gouvernement plutôt dans une logique très de droite, et l'Italie et les pays du Sud, sur la question justement de ce qu'on appelle la conditionnalité macroéconomique, c'est-à-dire le fait de dire on vous donne de l'aide, mais à côté de ça, vous nous faites des réformes structurelles, flexibilisation du marché du travail, privatisation, etc. Or, on a besoin de tout l'inverse en ce moment, c'est-à-dire qu'on a besoin de soutenir tout le monde et on a besoin d'un État providence, planificateur qui protège, et on aura sûrement des nationalisations.
Et donc Aurore Laluc, pardon de vous couper, mais donc ça veut dire que la logique de réduction des déficits et de réduction de la dette, pour l'instant, on oublie.
Il faut totalement oublier, mais je crois qu'il y a un accord là-dessus de Christine Lagarde à l'OCDE. Tout le monde dit, attendez, c'est vraiment pas le moment là. Là, on a besoin de sauver des vies, très clairement. Donc la dette et les déficits publics, on verra ça plus tard.
Et donc les pays-là ont cédé.
Ils ont cédé sur ce point, sur la question de la flexibilité du pacte de stabilité et de croissance, mais sur la question du mécanisme européen de stabilité, c'est pas sûr du tout. C'est-à-dire qu'en gros, ce qui a été l'accord obtenu, c'est de dire, ok, il n'y a pas de conditions macro, il n'y a pas de conditions de réforme quand il s'agit de dépenses de santé, mais sur les questions économiques, il y aura probablement des conditions. Donc on est sur une espèce de flou où les pays du Sud disent, on a gagné, et les pays du Nord disent, on a gagné. Mais voilà, on reste dans quelque chose de cet ordre-là. Après, moi, j'ai quand même un sujet qui est exactement ce qui a été dit. Comment l'argent descend?
Alors, ça, c'est effectivement toute la question. Ça, c'est la question, effectivement, du mécanisme qu'Alban Maggiard soulevait il y a un instant. Est-ce que, Agnès Benassi-Kerré, vous pouvez nous éclairer, justement, sur le circuit, sur les arcanes qui garantissent, effectivement, cette mobilisation de l'argent en faveur de l'activité économique?
Alors, il y a deux guichets. Le premier, c'est celui ouvert par la Commission européenne. Si l'accord porte sur la proposition qui a été faite par la Commission européenne le 2 avril, le principe est que les États doivent apporter des garanties. Donc, ce n'est pas de l'argent nouveau, hein, c'est juste des garanties. Et quand on atteint un certain niveau de garantie, à ce moment-là, le guichet se met en œuvre et les États peuvent obtenir des prêts. Alors, on ne connaît pas encore tout à fait la plomberie. C'est la Commission européenne qui est à la manœuvre, mais ce ne sera pas forcément la Commission européenne elle-même. Elle va déléguer. Et donc, ça, c'est pour financer des dépenses liées au chômage partiel.
Oui, ça, c'est le dispositif européen Chour, hein, c'est bien ça, oui. Agnès Benassi-Kéré.
Voilà, qui est très coûteux.
Voilà, qui prévoit une garantie de 100 milliards d'euros maximum. Effectivement, c'est pas rien. C'est une avancée importante, ça, ce dispositif-là?
C'est une avancée importante, surtout que si vous lisez la proposition, l'horizon, c'est minimum 10 ans. C'est-à-dire que, alors c'est ça qu'on ne sait pas encore, ce sera 10 ans, 20 ans ou 30 ans, mais c'est des prêts à long terme, donc ça c'est très important. Et ça pourrait aller au-delà de 100 milliards. Là on est sur 100 milliards, mais on a un dispositif qui, si la crise se prolonge, pourrait être augmenté éventuellement.
Donc ça c'est Alban, le premier guichet. Alors Alban Magière, justement, sur ce fonds de dispositif européen, Chour, qui prévoit effectivement cette garantie pour financer les plans de chômage partiel, ça... C'est une vraie mesure importante d'urgence.
C'est une fois de plus, c'est une mesure qui est intéressante, mais quand et comment va-t-elle parvenir jusqu'aux PME et aux artisans? C'est le problème. Pour le moment, par exemple en France, l'activité dans l'industrie est réduite de moitié. Il y a 5 millions de salariés en chômage partiel dans près de 500 000 entreprises. Et il faut savoir que 6 salariés sur 10 travaille dans une entreprise de moins de 50 salariés. Et c'est les PME qui sont le plus durement touchés en ce moment, parce que le talon d'Achille des PME, c'est la trésorerie, c'est les liquidités. Et pour le moment, elles n'ont pas accès à ces liquidités, ou de manière très complexe, et si elles vont voir leur banque, elles sont toujours dans des mécanismes classiques d'octroi de prêt, avec apport de garantie, des choses comme ça. Donc c'est-à-dire que tout ce qui est décidé pour le moment au niveau européen, ou même au niveau national, tarde à parvenir jusqu'aux structures qui elles-mêmes peuvent accorder la trésorerie dont les PME ont besoin pour survivre. Alors, on est dans l'instantané.
Alors Agnès Benassi-Kéré, c'est vrai qu'Alban Magière pose toujours justement cette question effectivement du circuit, de la tuyauterie ou de la plomberie, pour employer l'expression que vous avez vous-même utilisée tout à l'heure. On n'a aucune garantie là pour l'instant, on en est vraiment aux déclarations d'intention.
Non, pas du tout. Sur le chômage partiel, là, on parlait uniquement du chômage partiel. Oui. Donc le chômage partiel est déjà en œuvre dans tous les pays européens.
Mais donc, d'un point de vue national.
D'abonder des dispositifs qui sont nationaux. Donc les salariés des PME qui ont été mis en chômage partiel donc sont toujours payés par leurs entreprises qui doivent être remboursées. Donc peut-être que le remboursement doit être accéléré, c'est peut-être ça le sujet. Que les fonds soient accordés rapidement en remboursement des salaires qui sont payés par les entreprises. Mais ce dispositif est déjà en place. Donc s'il ne marche pas au niveau national, effectivement, il ne marchera pas au niveau européen. Mais disons, effectivement, le niveau européen se repose sur les dispositifs nationaux.
Alors au niveau européen,
il y a un autre sujet, oui, qui est la Banque centrale, qui est la BEI, les garanties. Et là, effectivement, il y a un intermédiaire de plus, hein, qui sont les banques. Donc les banques, normalement, doivent accorder des prêts aux PME avec des conditions bien meilleures qu'en temps normal, parce qu'elles-mêmes bénéficient d'une garantie publique.
Alors justement, déjà engagés dans cette bataille pour maintenir l'Europe à flot face à cette vague du coronavirus, il y a la BEI, la Banque Européenne d'Investissement, qui envisage le déblocage de quelque chose comme 200 milliards d'euros. Écoutons les précisions de Pauline Glaise.
La Banque Européenne d'Investissement prévoit la mise en place d'un fonds de garantie abondé par les États membres, un fonds de 25 milliards d'euros, mais qui aurait un effet bien plus ample. Il pourrait permettre de mobiliser jusqu'à 200 milliards d'euros. Alors comment on passe de 25 à 200 milliards, c'est simple, la BEI garantira des prêts octroyés par des banques ou autres intermédiaires à des entreprises. Ce filet de sécurité devrait rassurer les banques qui seront davantage enclines à accepter des dossiers. Mais évidemment, le risque de défaut n'est pas de 100%, donc garantir 1 euro permet aux banques de prêter bien plus, en l'occurrence 8 fois plus en moyenne. C'est l'effet de levier. Cette mutualisation doit permettre de coûter moins cher par rapport à des aides nationales séparées, d'autant que les crédits de la BEI sont notés triple A. Ce plan s'ajoute à des premières mesures décidées en mars et destinées à débloquer 40 milliards d'euros en faveur des PME.
La BEI, Pauline, qui déploie aussi des efforts à destination des pays extérieurs à l'Union européenne.
Bruxelles a annoncé un soutien de 15 milliards d'euros pour aider les pays les plus vulnérables, 10 milliards venant de la Commission européenne, 5 milliards 200 millions seront mobilisés par la BEI, explique Ambroise Fayolle, vice-président de l'institution.
5 milliards d'euros, c'est une somme considérable, puisque notre plan d'affaires pour l'activité en dehors d'Europe en 2020 était de l'ordre de 9 milliards d'euros. Donc on est en train de redéployer, parce que l'urgence est là, un peu plus de 50% de notre plan pour aller au plus vite aider les pays en dehors d'Europe. Et c'est pour ça qu'on a mis en place un dispositif pour essayer d'accélérer notamment les déboursements des prêts qui sont en cours ou d'autres dispositifs pour essayer d'aller vite aider au plus près à la fois nos partenaires en Afrique et répondre aussi aux objectifs des gouvernements nationaux.
La répartition géographique de ces aides n'a pas été tranchée définitivement, mais pour vous donner un ordre d'idée, l'an dernier l'Afrique a bénéficié d'un tiers des aides que la BEI a déployées hors de l'Europe.
Pauline Glaise dans Écho d'ici, Écho d'ailleurs sur RFI. Alors Alban Magyar, le circuit de la BEI est un circuit que l'on connaît assez bien. Hein. C'est un circuit qui est très très utilisé, beaucoup plus classique. Est-ce que là vous avez davantage de confiance, davantage de garantie quant à l'utilité réelle de ce plan ?
Oui, il faut rester résolument positif. Mais une fois de plus, nous dans les PME, pour les artisans, nous sommes dans l'urgence. Donc, comme cela a été dit, le système de chômage partiel existe dans 25 États membres sur 27, mais notre problème majeur pour les PME, c'est véritablement la liquidité, enfin, ce qu'on appelle la liquidité, les trésoreries. Donc, c'est vrai qu'on en a besoin à travers des prêts, et donc là, la BEI va pouvoir jouer son rôle, mais au-delà, c'est vrai que le report du paiement des impôts, des cotisations sociales, joue aussi un rôle. Il y a un élément qui est non négligeable, c'est tout ce qui est les retards de paiement qui proviennent aussi bien des administrations que des grandes entreprises. Donc je crois qu'il y a une sorte de règle du jeu à faire respecter qu'on n'est pas certain de s'installer.
Mais est-ce que vous êtes de ceux, Alban Magyar, qui réclament non seulement un report des charges, mais à terme une annulation pure et simple, en particulier pour les petites entreprises, et je pense évidemment aux indépendants qui vont beaucoup souffrir évidemment de cette crise, les coiffeurs, l'hôtellerie, la restauration, les fleuristes, les esthéticiens, que sais-je, même les sous-traitants du BTP ou de l'industrie automobile, par exemple, ça fait du monde.
Oui, ça fait beaucoup, beaucoup de monde. C'est-à-dire qu'on parle très souvent, on va en parler de tout ce qui est transport aérien, mais je dirais les PME sont les plus touchés par ce qui se passe en ce moment. On considère, d'après les analyses qui ont été faites par SME United, que 90% des PME et des artisans sont déjà touchés, comme on dit, impactés par la crise liée au Covid. Et le secteur des services est celui qui a eu le plus de conséquences. Et pour le moment, la perte de chiffre d'affaires pour les PME est d'environ 70%. Donc c'est-à-dire, il y a véritablement urgence à ce que toutes les décisions soient transformées en actions.
Et donc annuler purement et simplement les charges, alors là c'est plus une mesure à l'échelle nationale qu'à l'échelle européenne, bien sûr. Est-ce que c'est quelque chose qui vous semble souhaitable ? Vous allez sans doute me dire oui, mais est-ce que c'est raisonnable ?
Mais c'est toujours le problème de l'équilibre entre ce qui est souhaitable pour des petites structures et ce qui est raisonnable de faire pour un gouvernement. Donc au niveau national, on le voit par exemple en France, la dette, on le pense, va grimper à 112% du PIB. Donc comment va-t-on la traiter ensuite ?
Écho ici, écho d'ailleurs sur RFI avec nos trois invités, l'économiste Agnès Benassi-Kéré, professeure à l'École d'économie de Paris et à l'Université Paris 1, l'économiste et eurodéputée française Aurore Laluc, membre du groupe de l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates, et Alban Magyar, le président de SME United, l'association européenne de l'artisanat des petites et moyennes entreprises. Alors cette crise du coronavirus, on l'a bien compris depuis le début de cette émission, elle va coûter extrêmement cher à l'Europe. Et il y a une question qui n'a pas été tranchée cette semaine, Aurore Laluc, c'est la question de la mutualisation des dettes. On parlait tout à l'heure de l'accord qui avait été trouvé autour du mécanisme européen de stabilité, mais les fameux Corona Bonds, eh bien, pour l'instant, on n'en voit toujours pas la couleur. L'Italie réclamait cette utilisation de bons européens à corps et à cri. Mutualiser les dettes, pour vous, c'est indispensable ?
Oui, c'est indispensable. Après, ce ne sera pas suffisant. C'est-à-dire qu'il faut de la solidarité budgétaire, c'est évident. Mais ce ne sera jamais suffisant pour aider en urgence aujourd'hui l'économie. Et là, on le voit très bien avec ce qui a été dit. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre la théorie et la pratique. En théorie, on nous dit tous les fonds sont débloqués. En pratique, qu'est-ce qu'on observe ? On observe que l'argent qui est transmis aux banques commerciales ne descend pas dans l'économie réelle. C'est-à-dire que ce qui a été dit sur la question de la trésorerie, des liquidités, pour les indépendants, pour les PME, pour les TPE, c'est essentiel. Et là, aujourd'hui, on a des entrepreneurs qui vont voir les banques et les banques refusent de leur accorder des prêts. Donc, on pourra faire effectivement des eurobonds. C'est très bien, il faut absolument le faire. Mais il faudra aussi à un moment réfléchir à soutenir directement les États, c'est-à-dire à faire en sorte que la Banque Centrale Européenne ne fasse pas du refinancement des États sur les marchés secondaires, mais comme toute banque centrale normale, accède au marché primaire et finance directement les États, et voire même à terme, fasse ce qu'on appelle de l'hélicoptère monnaie, c'est-à-dire dans des mesures d'urgence, sur un temps donné, finance directement certains types d'entreprises, certains ménages, pour que ça s'effondre pas, tout simplement, pour que l'économie et surtout la structure sociale ne s'effondre pas. En Allemagne, le gouvernement allemand a décidé de soutenir, de faire un chèque aux indépendants, par exemple. Donc il faut réfléchir à ce type de mesures parce que pour certains entrepreneurs et derrière, bah, pour la vie des Européens, tout simplement, il y a un risque d'effondrement assez massif. Donc ne pas passer tout le temps par les banques. Pourquoi passer en permanence par les marchés financiers et attendre que ça redescende sur l'économie alors que ça ne le fait pas toujours ? Financer directement les États, financer directement les ménages, financer directement les entreprises.
Alors ça, effectivement, c'est l'idée de ce fameux hélicoptère monétaire ou hélicoptère monnaie, hein, vous le disiez, Aurore Laluc, c'est une idée de l'économiste américain Milton Friedman. Elle a jamais été mise en œuvre concrètement, cette idée, Agnès Benassi-Kéré. Est-ce que c'est le moment de l'expérimenter ?
Le problème de l'hélicoptère monnaie, c'est que la Banque Centrale Européenne n'a pas le nom et l'adresse des ménages en difficulté ni des entreprises en difficulté. Donc si la BCE faisait ça, ce serait à l'aveugle complètement, avec beaucoup de pertes en ligne. Donc je comprends très bien le point qui est que l'argent ne descend pas suffisamment vite au niveau des entreprises. Mais je pense pas que ce soit au niveau de la BCE que le problème va se régler. Ce problème est un problème de chaque État d'efficacité de son administration. Et là, on peut quand même se féliciter en Europe d'avoir un système qui est plus efficace, avec une meilleure filet de sécurité qu'aux États-Unis, où on voit qu'il n'y a pas de chômage partiel, tous les gens sont au chômage et ils attendent leur chèque.
Oui,
le chèque n'arrive pas.
Aurore Laluc, est-ce que la limite de l'hélicoptère monnaie, outre effectivement qu'il n'y a pas forcément d'adresse de bénéficiaire, comme le disait Agnès Benassi-Kéré, c'est tout simplement que les gens n'utilisent pas forcément la monnaie pour consommer, pour relancer la machine économique, mais plutôt pour thésauriser, pour épargner. Il y a un vrai risque là, non ?
Il y a plusieurs choses. On peut passer par les États. Et je pense que les États et les administrations ont les fichiers, notamment parce que il y a quelque chose qui s'appelle l'impôt sur le revenu, ce genre de choses. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, on peut très bien justement assujettir cet argent qui sera transmis, on peut l'assujettir à l'impôt sur le revenu là aussi, et faire en sorte que pour les gens qui n'en ont pas besoin, ça revienne dans les caisses de l'État à la fin. Il y a plein de critères possibles. Là, le sujet, c'est qu'il faut, à mon sens, en tout cas d'un point de vue d'urgence, financer rapidement les États pour qu'ils puissent mettre en place les mesures d'urgence nécessaires et aider, comme bon leur semble, les ménages, les entreprises. Mais il faut absolument, à mon sens, arrêter en permanence de passer par ce canal qui sont les banques commerciales. On l'a fait sur les politiques de quantitative easing. On a vu, pendant 10 ans, on a vu que c'était pas retombé réel dans l'économie réelle. Donc arrêtons à un moment d'être idéologiques sur les moyens. Soyons idéologiques sur les fins, mais pas sur les moyens à débloquer. Là, il y a vraiment des mesures d'urgence à mettre en œuvre. Il faut qu'on soit à la hauteur des attentes.
Alban Magyar, est-ce que justement le système bancaire, les banques commerciales, est précisément, pour reprendre ce que disait Aurore Laluc, à la hauteur des attentes ? Parce que le rôle des banques, c'est précisément, entre autres, de financer l'économie. Est-ce qu'elles sont au rendez-vous ?
Ça, c'est une question très complexe parce qu'elle varie énormément d'un pays à un autre. C'est-à-dire que, par exemple, en France, vous avez des grands réseaux nationaux, alors que dans d'autres pays, comme notamment l'Allemagne ou l'Autriche, vous avez énormément de banques locales et régionales qui sont parfaitement insérées, intégrées dans le tissu économique et qui connaissent parfaitement bien les entreprises avec lesquelles elles sont en relation, quelquefois depuis des dizaines d'années, si ce n'est des générations. Donc, c'est sûr que l'approche, l'état d'esprit du système bancaire est extrêmement différent d'un État membre à l'autre. Et on s'aperçoit que très souvent, malheureusement je dirais en France, il y a une distance très nette entre le système bancaire et les modalités de financement des PME et de l'artisanat qui n'existent pas dans d'autres pays. Et là, en ce moment, c'est un défaut majeur.
Agnès Benassi-Kéré, les banques pour l'instant elles ne souffrent pas trop du confinement et de la crise du coronavirus. Il y a un risque à terme de déstabilisation du système bancaire ?
Oui, alors les banques sont mieux préparées qu'en 2008, c'est clair, mais elles ne sont pas à l'abri tout de même, puisque cette crise, enfin, on a vu la chute spectaculaire de la bourse, il va y avoir une augmentation des prêts qui ne seront pas remboursés, donc elles vont faire des pertes. Tout ça va être absorbé dans du capital, dans des fonds propres qui sont plus importants qu'avant. Mais néanmoins, les régulateurs ont un peu relâché les contraintes sur les fonds propres. Mais néanmoins, les banques ne sont pas à l'abri. Alors, c'est vrai que l'Europe continentale est financée traditionnellement par les banques. Et donc, on s'appuie sur les banques pour apporter la liquidité aux entreprises. Maintenant, si les banques ne font pas leur travail, donc on sait que après la crise de 2008, hein, on a mis en place un médiateur du crédit pour essayer de mettre de l'huile dans les rouages. Si tout ça ne marche pas, effectivement, on peut en arriver à une solution, fiscale, où effectivement, les entreprises ont toutes un compte où elles payent des impôts, et donc on pourra imaginer un impôt négatif sur les entreprises très petites. Hein. Mais aujourd'hui, il y a aussi le fonds qui a été créé au niveau français, le fonds de soutien aux indépendants et aux toutes petites entreprises. Alors, il faudrait voir si ceci ne fonctionne pas non plus. Je suis un peu étonnée que rien ne fonctionne. Enfin, il doit y avoir certainement des hétérogénéités selon les territoires, mais je suis quand même étonnée que ni les banques, ni le fonds de soutien, ni l'assurance chômage partiel, ni aucun de ces dispositifs ne fonctionnent. Il va y avoir des problèmes en fait de solvabilité, c'est-à-dire qu'il y a des temps, et ça c'est un peu le non-dit d'aujourd'hui, c'est que certains secteurs vont en réalité voir leur activité durablement réduite. On parle du transport aérien, il y a d'autres activités, tourisme, loisirs, et qui vont devoir réduire la voilure. Donc en réalité, un certain nombre de PME qui aujourd'hui disent qu'elles sont à court de liquidité, en réalité vont s'avérer en sortie de crise insolvables.
Alors, on parlait du transport aérien. Justement, on va y venir parce que c'est vrai que c'est un des secteurs qui concentre énormément d'inquiétudes. Les aérogares sont vides, les avions sont cloués au sol, le coronavirus a fait fermer les frontières, faut-il le rappeler, il a interdit à des millions de voyageurs de prendre leur vol. L'IATA, l'association internationale du secteur aérien, estime ainsi la chute du trafic à 70% au deuxième trimestre 2020. Alors, conséquence logique pour les compagnies aériennes, un énorme manque à gagner et même un danger de survie pour beaucoup d'entre elles qui sont notoirement déficitaires. Et ça ne date pas d'hier, de quoi inciter évidemment les États, là aussi, à voler à leur secours. Abla Jounaïdi.
Ça ne fait aucun doute pour ces acteurs comme pour ces experts. Le secteur traverse la pire crise de son histoire récente. Rien à voir avec 2001, après les attentats sur le sol américain, ni encore l'effondrement de 2009. Dans sa visioconférence de presse cette semaine, l'Association internationale du transport aérien dresse un sombre tableau. Pour Brian Pierce, son économiste en chef, l'urgence de cette industrie dominée par les coûts fixes, c'est le cash.
Notre industrie va subir d'énormes pertes au second trimestre. Au total, dans le monde, 35 milliards de dollars doivent être remboursés aux clients qui n'ont pas pu voyager. Mais comme on le sait, pour la majorité des compagnies, l'absence de cash est un problème récurrent. Quelques compagnies se distinguent par des réserves très importantes, mais la plupart n'ont pas plus de 2 mois de fonds de roulement. Beaucoup vont bientôt arriver au bout de leur liquidité.
Le PDG d'IATA, c'est Alexandre de Juniac, l'ancien président d'Air France. Il a appelé à sauver les compagnies nationales. Alitalia, Norwegian et Air France auront le soutien de leur État respectif. Il ne pouvait en être autrement, nous explique Emmanuel Combes. Il est professeur d'université à la Schema Business School. Il occupe aussi la fonction de vice-président de l'autorité française de la concurrence.
L'État est actionnaire, donc il a un intérêt en propre à soutenir la compagnie. On peut aussi arguer du fait que le coût social d'une faillite, vous savez, c'est le fameux argument que l'on emploie pour les banques, hein, « too big, too fail hein. ». La faillite d'une très grande compagnie, ce n'est pas seulement un coût privé, c'est aussi un coût social hein, de faire faillite. Et puis, on pourrait aussi arguer du fait que, au motif que les autres pays vont soutenir leur compagnie nationale, et n'oublions pas les Américains, ont prévu d'injecter plus de 50 milliards de dollars. Il est assez logique que l'État français soutienne Air France.
Emmanuel Combes, qui rappelle que le futur paysage aérien en Europe sera forcément remodelé. Beaucoup de compagnies vont mourir. Les géants du low cost aux poches pleines de cash comme Ryanair se lanceront à l'assaut des créneaux de vol. Il faudra donc exiger d'Air France et des autres qu'elles changent leur modèle économique pour survivre. Dans l'urgence, va-t-on en oublier l'environnement? C'est ce que craignent 250 ONG qui sonnent l'alerte cette semaine comme Réseau Action Climat. Agathe Bounefour en charge des transports.
Ce qu'on voudrait, c'est qu'il y ait un questionnement quand même sur la compatibilité de ces projets avec la transition écologique. Et ce qu'on n'aimerait pas se voir produire, c'est que la crise actuelle sanitaire, sociale, économique qui est véritable, hein, n'aggrave la crise environnementale par des mesures d'urgence mal calibrées en fait.
Les compagnies historiques vont-elles surtout profiter de l'effet d'aubaine sans s'engager à des réformes? C'est toute la question.
Tout est possible, tout est envisageable, tout est prêt, hein, a dit cette semaine le ministre français de l'économie Bruno Le Maire pour venir en aide au groupe Air France KLM. Ça veut dire quoi concrètement, Aurore Laluc? La solution, c'est de nationaliser le groupe?
Oui, et de toute façon, c'est un secret pour personne. Oui, la solution, ce serait de nationaliser, parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Le problème, c'est qu'on se retrouve dans une situation où il faut arbitrer entre le social et l'écologique. Donc, une des solutions, ce serait de nationaliser pour protéger notamment les emplois. Par contre, de commencer tout de suite à réorienter le secteur de l'aviation, mais aussi l'ensemble des transports, vers la transition écologique et sociale, puisqu'on était dans une situation où il fallait de toute façon réduire le nombre de vols, puisque vous savez que l'aviation est un secteur extrêmement polluant. Donc c'est le moment, une fois l'urgence passée, de mettre tout sur la table et de voir comment on repense le transport. Parce que de toute façon, il va falloir aussi penser le monde avec, c'est-à-dire que ce virus ne va pas disparaître du jour au lendemain. Donc tout ne va pas reprendre tout de suite comme avant, et c'est peut-être tant mieux d'ailleurs. Il va falloir réfléchir un petit peu plus à la façon dont on produit, dont on consomme, dont on échange et dont on se déplace. Donc oui, la solution, ce sera la nationalisation, mais une nationalisation qui est pensée ensuite dans un plan plus global de transport au niveau français et au niveau européen, orienté vers la transition écologique. Ça veut dire, par exemple, ne pas forcément faire de vol là où il y a du TGV. Voilà, ça commence par ce genre de choses. Il va falloir qu'on ait une réflexion globale, de réorientation globale des transports dans notre pays.
Ça veut dire, Aurore Laluc, que je sais que vous êtes extrêmement sensible à ce Green New Deal, hein, dont vous êtes l'une des grandes promotrices au sein du Parlement européen, que le coronavirus pourrait être un peu l'allié de ceux qui souhaitent verdir un petit peu le modèle de croissance européen?
C'est pas un allié, je préférerais qu'il soit pas là, mais c'est une conséquence des désastres d'un modèle qui a été beaucoup trop loin dans le productivisme, trop loin dans la croissance. Et il faut tout de suite résoudre la crise sociale et économique, mais il ne faut pas remettre en cause pour autant la réorientation vers la transition écologique. C'est-à-dire dire il va nous falloir de la croissance pour pouvoir sortir de cette crise qui est elle-même probablement liée à un système croissantiste, c'est absurde. Donc il faut tout de suite trouver des solutions macroéconomiques parce qu'on a une crise macroéconomique, mais par contre réorienter aussi notre modèle économique vers la transition écologique et sociale. Et là-dessus, il y a un vrai questionnement à avoir parce qu'on se rend compte qu'il y a des forces assez obscures qui ont tendance à dire aujourd'hui, bon bah, on verra ça plus tard, hein, les questions environnementales pour l'instant, et puis le plus tard étant dans 10 ans finalement. Non, on n'a pas 10 ans devant nous. On doit agir extrêmement vite. Mais on peut tenir tous les bouts ensemble. La question écologique, économique et sociale ne sont pas incompatibles. Bien au contraire, elles vont ensemble, en fait.
Alors, je voudrais avoir l'opinion d'Agnès Benassiquéré là-dessus, parce que c'est vrai que on est en train beaucoup de réfléchir, hein. Pour l'instant, là aussi, aucune décision n'a été prise concrètement, mais de réfléchir et d'imaginer une sorte de plan de relance économique à l'échelle de la zone euro, peut-être même certains envisagent à l'échelle de l'ensemble de l'Union européenne. Est-ce que rajouter en plus l'enjeu écologique dans ce genre de circonstances-là, ça risque pas de complexifier encore davantage la chose?
Bon, alors j'ai peur que, en effet, on fasse les mêmes erreurs que lors de la précédente crise, sauf que cette fois c'est démultiplié. Il y a deux choses. Une, on va sortir de la crise, comme je le disais, avec des surcapacités dans certains secteurs polluants. On peut penser au transport aérien, on peut penser à l'automobile, on peut penser à un certain nombre d'acteurs du tourisme international. Bref. Donc, il y a un risque que chaque État se replie sur lui-même et finance, soutienne à bout de bras son industrie comme avant. Et donc, on aurait une grande déperdition d'argent public et on perdrait une occasion de changer de modèle de croissance. Et j'ai peur aussi qu'en parallèle, on ne saisisse pas l'opportunité historique coût du pétrole extrêmement bas pour remettre un prix du carbone. Je n'ai pas regardé récemment le prix des quotas d'émission de carbone, je pense qu'il doit être assez bas. Et j'ai peur qu'on ne saisisse pas cette opportunité pour remonter ces prix. Je sais que taxe carbone aujourd'hui, ça paraît surréaliste, mais en réalité, si on veut redémarrer sur une base d'un autre modèle de croissance, en effet plus compatible avec le Green Deal qu'on appelle nos voeux avant la crise du coronavirus, eh ben, on devra en passer par là. Donc ça n'est pas simplement mettre des normes. Je pense que les normes sur le transport aérien, je suis tout à fait contre, moi je suis désolée, le fait d'interdire des lignes aériennes même intérieures, moi je préfère de beaucoup faire payer aux compagnies aériennes les externalités, donc le carbone qu'elles émettent, mais laisser la possibilité, sinon on met en péril des économies locales et qui ont des grandes entreprises, qui ont besoin de se déplacer sur l'international et qui ont besoin donc de connexions aériennes. Donc moi je préfère de beaucoup les instruments de prix par rapport à des normes et des interdictions qui sont en fait beaucoup plus coûteuses, notamment au détriment des tissus d'entreprises régionaux.
Qu'est-ce que vous en pensez, Alban Magyar? Est-ce que c'est une occasion, cette crise du coronavirus, pour réorienter les priorités dans la construction du tissu économique européen, les verdir et profiter effectivement de cette baisse des prix à la pompe qui d'ailleurs peut impacter un grand nombre d'indépendants, d'artisans notamment?
Oui, moi je pense que c'est pas simplement une occasion, c'est un accélérateur. C'est-à-dire que déjà depuis pas mal de temps, les PME s'intéressent à ce qu'on appelle la responsabilité sociale et environnementale. Et d'ailleurs, le thème annuel de 2020 pour SME United, c'était la transition écologique et durable. Donc ça fait partie intégrante de ce que nous voulons faire et j'irai de l'ADN qui sera partagé et qui est déjà partagé par beaucoup de PME et d'artisans. Nous, ça nous semble impératif et il est certain, comme cela vient d'être dit, que la crise qu'on connaît, qui est une crise sanitaire, qui est une crise économique et qui est une crise sociale, va aboutir certainement à ce que beaucoup de gens qui n'étaient pas encore sensibilisés à ce point réfléchissent différemment. Et donc ça sera certainement une bonne chose. Mais quand on démarra, et ça on ne le sait pas encore, et c'est un problème majeur pour les PME parce que c'est comment définir une stratégie de redémarrage et de sortie de crise quand on ne sait pas quelle sera l'échéance, mais quand on redémarrera, il est certain que tout ce qui est responsabilité sociale et environnementale prendra un accent beaucoup plus prononcé.
Agnès Benassi-Kerré, est-ce que cette crise sanitaire, ce ne pourrait pas non plus être l'occasion de créer, ou plutôt de recréer, un certain nombre de bassins d'emplois industriels en Europe? Je pense à des activités qu'on avait peut-être un petit peu trop négligées, voire laissées implanter à l'étranger. Je pense par exemple au secteur de la santé, dans le secteur de l'agroalimentaire, qui aujourd'hui, évidemment, face à cette crise, sont considérés comme stratégiquement important.
Alors, il y a deux niveaux de réponse par rapport à ça. Le premier, c'est de définir effectivement des secteurs stratégiques. On s'aperçoit aujourd'hui qu'on a laissé partir des pans entiers de l'industrie pharmaceutique qui nous font cruellement défaut. Normalement, la réponse à ça, elle est européenne, à condition que les frontières restent ouvertes entre les pays européens, et ce qu'on n'a pas vu, enfin, disons, imparfaitement vu depuis le début de la crise. Donc, je pense qu'il y a une difficulté là au niveau européen. Est-ce que finalement avoir une industrie pharmaceutique qui soit européenne nous protège, et visiblement c'est pas complètement le cas. Donc ça c'est vraiment un point qu'il va falloir clarifier en sortie de crise. Maintenant, il y a la question plus générale des chaînes de valeur, et beaucoup de gens disent « Ah ben c'est une occasion de relocaliser les chaînes de valeur ». C'est sans doute partiellement vrai, en tout cas de les raccourcir de manière à éviter les goulots d'étranglement. Mais il y a aussi un argument pour la diversification. Donc certes, être moins dépendant de la Chine, je pense que tout le monde est d'accord. Mais est-ce que ça veut dire forcément être dépendant uniquement des producteurs locaux? Imaginez que la crise ait démarré en France, on aurait été bien content de pouvoir importer, d'ailleurs on est bien content de pouvoir importer des masques, hein, entre guillemets, mais entre parenthèses. Mais Disons, je crois que l'enjeu, c'est plutôt la diversification des fournisseurs plus que et d'être moins dépendant d'un pays donné ou d'une région donnée.
Mais si relocalisation il y a, on l'a lu, que le problème du coût de la main-d'œuvre en Europe sera de toute façon posé.
Le coût de la main-d'œuvre, c'est aussi un investissement, hein. On peut le prendre dans les deux sens. Moi, je vois ça comme un investissement, personnellement. Après, quand des gens meurent, il y a un moment où il faut être assez pragmatique. Donc, on a vu ici la défaillance et la fragilité, en fait, extrême de notre division internationale du travail, le zéro stock, les flux tendus, etc. On a vu, finalement, qu'on était assez hors sol, qu'on avait une mondialisation, quelque part, je n'aime pas ce terme, mais assez contre nature, finalement. Donc, il faut revenir à du pragmatisme. On se rend compte de quoi ? Qu'on a besoin aujourd'hui d'avoir sur notre sol des médicaments, des masques, une capacité de production en cas de souci. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il nous faut une politique industrielle européenne, c'est le premier point. Sur la question des médicaments, mais aussi sur la question, par exemple, du textile, du matériel médical, et aussi, à terme, sur les questions de transition écologique, de production d'énergie, etc., etc. Donc, il va falloir revenir à des choses, à mon avis, un petit peu plus sensées, être moins dans les modèles économiques, être plus pragmatique, et puis réfléchir aussi à une européanisation. On entend beaucoup parler de nationalisation. Moi, j'aimerais bien qu'on ait une européanisation de certains secteurs, et notamment, par exemple, sur la question du médicament.
Vous y croyez, Alban Majard ?
Oui, je pense que c'est absolument nécessaire. C'est-à-dire que d'un point de vue politique, on s'aperçoit qu'il y a eu un déficit, je dis pas complet, mais important en tout cas, de vision stratégique, je dirais, d'implantation des industries qui sont nécessaires à la population européenne. Et ça, là, je pense que on peut critiquer l'Europe, alors que, contrairement à ce que peut-être j'ai laissé entendre, je pense qu'en ce moment, l'Europe réagit très bien et que les gouvernements nationaux réagissent aussi. Ils ont pris la mesure du problème. Mon interrogation majeure, c'est toujours dans le temps. C'est-à-dire que le temps des entreprises est extrêmement plus court et plus rapide que le temps des administrations. Donc c'est là où je m'interroge énormément. Pour en revenir à tout ce qui est les chaînes de valeur et la vision européenne, il y a eu, c'est le cas de le dire, un déficit très important.
Corollaire des dispositifs d'État mis en place pour aider les entreprises, le ministre français de l'économie Bruno Le Maire a lancé à plusieurs reprises un appel pour que les entreprises qui auront utilisé le chômage partiel ou qui auront eu recours à d'autres aides publiques ne versent pas de dividendes cette année. Et certains, figurez-vous, veulent aller encore plus loin. C'est le cas d'un avocat français, il s'appelle Maître Christophe Legvac. Il a déposé une requête devant le Conseil d'État pour geler les dividendes des grandes entreprises, des dividendes qu'il veut transformer en une contribution de solidarité exceptionnelle. Il s'en est expliqué au téléphone de Franck Alexandre.
Plusieurs citoyens sont venus me voir parce qu'ils étaient indignés à la fois par le traitement inégalitaire des efforts demandés aux Français, puisqu'on avait l'impression que les premières mesures prises par le gouvernement se concentraient sur les salariés, leur demandaient des efforts notamment pour travailler plus, dans des conditions parfois dangereuses, alors que dans le même temps, on apprend que les grandes sociétés, notamment du CAC 40, s'apprêtent à distribuer 50 milliards de dividendes à leurs actionnaires. On a réfléchi et on a essayé de trouver une solution qui permette de saisir le juge administratif en référé, dans le cadre d'un référé liberté, pour demander à ce qu'il enjoigne au gouvernement de prendre des mesures qui nous paraissent utiles. Et parmi ces mesures, il y a d'abord le gel des dividendes des sociétés qui ont un chiffre d'affaires de plus de 150 millions d'euros. Ensuite, le fait que ces dividendes doivent être placés à la Caisse des dépôts et consignations en attendant de voir. Et surtout la mise en place d'une contribution exceptionnelle de solidarité qui permettra de financer notamment le fonds de solidarité, mais aussi la politique de relance qui va être nécessaire à la sortie de la crise.
Une proposition qui vous semble tout à fait légitime, Aurore Laluc ?
Oui, ça me semble légitime pour plein de raisons. Déjà, il faut se rendre compte qu'il y a toute une partie de la population et des travailleurs ces dernières années qui ont été quand même maltraités. Soit parce qu'ils réclamaient des outils pour pouvoir faire correctement leur travail, et je pense au secteur de la santé, soit parce que on disait d'eux finalement c'était des feignants, etc. Et qui est en première ligne aujourd'hui pour soutenir l'économie, pour nous soutenir nous, pour nous nourrir, pour nous soigner, pour ramasser nos déchets, etc. pour qu'on puisse vivre, bah c'est eux. Donc ça, il n'est pas possible dans une société et pour faire société qu'il n'y ait pas une contribution égalitaire finalement, et qu'on ne tente pas que les plus riches, les plus puissants sont aussi là en solidarité. Et c'est la même chose côté entreprise. On ne peut pas supporter le fait qu'il y ait des grandes entreprises qui puissent faire de l'optimisation fiscale, de l'évasion fiscale, etc., et que par contre, le secteur des petites entreprises, des indépendants, etc., eux, soient dans une situation difficile. Il faut que la solidarité, dans un moment pareil, joue à plein. Et par ailleurs, enfin, la mise en scène d'espèces d'impuissance de l'État commence à m'insupporter. C'est-à-dire que plutôt que faire des appels, il y a quelque chose qui s'appelle la loi, la règle de droit, la norme. L'État peut les utiliser. S'il ne veut pas que les entreprises versent des dividendes, il a juste à légiférer, il a juste à prendre des dispositions. Oui. Dans des situations comme ça, l'État doit être extrêmement présent et arrêter de faire des appels permanents.
Mais Agnès Benassi-Kéré, est-ce que la question va réellement se poser? Est-ce que le ralentissement, voire l'arrêt dans certains secteurs de la machine économique ne risque pas finalement de rendre cette question caduque, tout simplement parce qu'il n'y aura pas de dividendes cette année?
Oui, alors ça dépend si on parle des dividendes sur l'exercice 2019 ou sur l'exercice 2020. Sur l'exercice 2020, effectivement, on peut penser que la plupart des entreprises n'auront pas de profit, donc pas de dividendes à verser. Sur l'exercice 2019, je comprends le point de vue de l'État qui dit les entreprises qui reçoivent une aide publique ne vont pas verser de dividendes. Je comprends aussi qu'après la crise, il va y avoir un débat sur l'échelle des rémunérations dans notre société et en particulier au sein des entreprises et entre capital et travail, mais je pense que c'est beaucoup plus en fait entre salaire élevé et salaire bas, donc à l'intérieur de la rémunération du travail. Donc je comprends tout ça. Maintenant, il y a une question légale, c'est-à-dire que je ne suis pas juriste, des dividendes qui ont été fixés en 2019, est-ce qu'on peut ne pas les verser? Donc ça, c'est une question légale, il y a une réponse, c'est oui ou c'est non, donc on ne peut pas aller contre le droit. Et d'autre part, c'est à manier avec précaution parce que les entreprises, et surtout en sortie de crise, vont avoir besoin en fait d'actionnaires. Donc imaginons une entreprise qui a besoin d'augmenter son capital en sortie de crise, il faut quand même qu'elle puisse promettre une rémunération au capital, même si on peut aussi réfléchir aux normes de rémunération des actionnaires en sortie de crise. On sait qu'il y a eu des comportements déviants de rachat d'actions pour faire monter le prix des actions de manière artificielle.
Alban Magyar.
Je dirais pour les PME et les artisans, ça nous concerne beaucoup moins. Il faut que vous sachiez que le salaire moyen d'un patron de PME en France, c'est 4 800 €. Et sa préoccupation, lui, c'est la vie de son entreprise, la santé de son entreprise, la santé de ses salariés. Donc l'argent est constamment réinvesti dans l'entreprise. Alors que d'un point de vue de justice, on dise que les dividendes des grandes entreprises, et là ça serait forcément ceux qui concernent 2019, puisque 2020 il risque de pas y en avoir, donc que ces dividendes ne soient pas distribués si les entreprises ont accès à des grandes aides d'État, ça me semblerait être assez cohérent. Il y a déjà des grosses entreprises, en Espagne notamment, qui ont décidé de supprimer le versement des dividendes au titre de l'exercice 2019 et dont les dirigeants ont renoncé à leur rémunération variable. Donc je pense que ça, c'est un comportement qui est un comportement responsable de la part de personnes dans ces entreprises. Mais une fois de plus, dans les PME, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas.
Merci beaucoup Alban Magyar. Merci également à vous Agnès Benassi-Kéré et Aurore Laluc. Dans un instant, l'info sur RFI. Prenez soin.
Écho d'ici, écho d'ailleurs sur RFI.